Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Seigneur, comme toujours, nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui est pour nous comme un niveau qui nous permet de savoir comment, Seigneur, nous devons nous conduire et quel est en effet ce qui doit être notre partage. Seulement ton esprit est capable de sceller en nous la vérité et de nous permettre aussi de vivre en conséquence. Aussi, je te prie qu'au travers de ces quelques instants de méditation de ta parole, tu puisses faire du bien à nos cœurs. Seigneur, rectifie en nous ce qui doit être rectifié, mais en même temps, Seigneur, viens par ton esprit nous donner un nouvel élan pour que nous soyons pleins de confiance dans l'avenir, parce que nous ne nous appuyons pas sur nous, mais nous voulons nous appuyer sur toi. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre et gloire te soit rendue pour ce que tu as fait jusqu'à ce jour et ce que tu feras encore, parce que tu es fidèle et éternel dans ton amour. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais simplement vous dire que j'aimerais partager quelques pensées au sujet de ce que nous pourrions appeler les projets d'avenir. Chacun d'entre nous peut établir des plans et avoir quelques idées concernant le futur. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est celui qui doit tout diriger, qui doit tout contrôler, et qui doit nous mener étant conduit par le Saint-Esprit. Quelques mots sur notre époque. Nous vivons une époque qui considère que les prédictions et les planifications pour l'avenir font partie de la vie normale. Vous avez remarqué probablement que les statistiques, les probabilités de pourcentage et certaines projections dans le domaine informatique constituent autant de départements qui sont les prophètes modernes de ce temps actuel. Et j'ai remarqué que bien souvent, ces sortes de prédictions-là, elles font l'affaire de ceux que j'appelle faire partie de l'humanisme séculier. Nous pouvons savoir que à l'heure actuelle, s'il y a une élection, et ne croyez pas que je fasse allusion à quelque chose qui s'approche dans quelques semaines, mais c'est bien vrai que lorsqu'il y a des élections, eh bien ceux qui sont aux dépouilles des bulletins, ils sont capables, à partir de 10% de bulletins dépouillés, de savoir effectivement qui va être élu. Il y a aussi des prédictions pour le temps, Et aujourd'hui, on est capable de savoir quel temps il fera, par exemple, dans un mois. C'est quand même quelque chose de remarquable par rapport à un temps passé. Mais en même temps, il y a un certain danger. On est saturé de toutes parts par toute une pléiade, je dirais, de planificateurs qui sont là pour vous montrer, par exemple, comment vous devez donner à manger à votre chien, comment vous devez agir jour après jour, avoir tel comportement dans tel domaine. Enfin, c'est une société ouverte, je dirais, vers l'avenir. Les hommes veulent ressembler à Dieu dans ce sens qu'ils veulent connaître le futur et la fin de toute chose dès le début, dès le commencement d'une chose. Seulement, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées et qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et les choses révélées, elles sont pour chacun d'entre nous et nous pouvons les découvrir dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Il y a donc trois points sur lesquels je voudrais me pencher ce soir particulièrement. Le premier point, c'est celui qui est mis en relief par le verset 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » J'appelle cela « planifier sans tenir compte de la providence ». Voyez-vous, mes frères et sœurs, ça, c'est une chose qui est extrêmement dangereuse, car c'est une manifestation d'orgueil venant de la part des hommes qui sont capables de dire, voilà, dans un an, pendant une année, nous allons travailler, nous allons gagner. Et avez-vous remarqué comment, très simplement, Jacques les ramène à prendre conscience d'un fait qui est très important. Ils sont capables de se projeter pour un an, et pourtant, nous tous ici, nous savons que le lendemain ne nous appartient pas. Demain n'est pas à notre disposition. Planifier, pourtant, n'est pas le problème en soi, parce que ce sont les attitudes du cœur et les mobiles qui nous poussent à agir qui doivent être placés devant le Seigneur afin que nous puissions discerner quelle est sa volonté et que nous restions dans une dépendance totale du Seigneur, dépendance totale de notre Dieu. Vous savez, c'est terrible de ne pas tenir compte de ce que le livre des Proverbes, par exemple au chapitre 16 et au verset 1er dit, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de qui ? Elle vient de l'Éternel. » Et nous ne devons jamais oublier cela. C'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, Jacques dit très simplement, « Attention, lorsque vous faites des projets, n'oubliez pas de dire « si Dieu le veut ». Cependant, écoutez bien, mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce « Dieu le veut » ou « Dieu voulant » devienne une petite formule magique derrière laquelle on se cache. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose dont nous sommes conscients, que nous dépendons de Dieu d'une manière constante, permanente, moment après moment, je dirais presque minute après minute. Ce qui nous appartient, c'est le moment présent. Ça, c'est la vie. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Il y a dans les, je dirais, comment on appelle cela, les formules humaines, une parole que nous connaissons et qui semble vraie, nous proposons mais Dieu dispose. Et il ne faut jamais oublier cela. Maintenant, l'opposé, eh bien, c'est la formidable perspective qui est offerte à un chrétien de compter sur son aide, sur son secours, sur sa direction. Vous voyez, nous tous qui sommes ici, nous savons que même si l'avenir est incertain, nous avons ce Dieu qui est présenté dans les évangiles comme étant le maître de toutes les circonstances. Et nous connaissons tous ce passage qui se trouve dans les évangiles, où les disciples qui ont obéi au Seigneur d'ailleurs, à l'ordre qui leur a été donné, passant à l'autre bord, ont dû affronter une terrible tempête. Subitement, le vent s'est soulevé, les vagues se sont soulevées également, ils ont été plongés dans une grande détresse, mais le Seigneur a manifesté sa puissance. Il a manifesté qu'il était le maître des flots, qu'il était le maître du vent. Il a donné une seule parole et le calme est revenu. Je ne peux pas savoir ce que sera demain. Je ne peux pas, moi, prévoir ce qui va être notre partage pour chacun d'entre nous sur le plan personnel, peut-être pour l'ensemble de la communauté. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes choses. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas oublier. C'est que nous devons rester dépendants de Dieu en sachant que quoi qu'il arrive, si nous dépendons de lui, il fera toujours concourir tout à notre bien. Est-ce que vous le croyez? Nous avons fait certainement plus d'une fois les uns et les autres cette expérience que dans sa fidélité, Dieu a fait effectivement cela. Mais le fait de croire que Dieu est tout-puissant, que toutes les circonstances sont entre ses mains, permet à quelques-uns de dépasser certaines limites. Car voyez-vous, il y a des moments où nous devons être conscients que nos désirs, nous les présentons quelquefois comme si c'était le projet de Dieu, comme si c'était le plan de Dieu. Et là, il faut faire attention, parce que il faut savoir discerner entre ce qui est un désir personnel qui se trouve dans le fond de notre cœur et la pensée de Dieu. Je voudrais vous donner un exemple qui, je pense, eh bien, ne concerne absolument personne parmi nous ce soir. Mais c'est juste afin d'illustrer et montrer que parfois nous vivons dans l'illusion et qu'il faut pouvoir laisser le rêve pour accepter la réalité de Dieu. Vous savez, ça m'est arrivé d'avoir à me confronter à certains jeunes gens, certaines jeunes filles qui avaient fait des projets pour leur vie. Et je me souviens particulièrement dans une certaine ville et dans une certaine assemblée d'une jeune fille qui était tombée amoureuse d'un garçon, un jeune serviteur de Dieu en plus. Il était là se préparant à servir le Seigneur et son cœur brûlée d'amour pour lui. Elle était absolument convaincue. Mais c'est Dieu qui me l'a montré à un tel point même qu'elle est allée aussi se confier à lui pour lui dire « Dieu me montre qu'il faut qu'on se marie. » Sauf que lui lui a dit « Peut-être que Dieu te l'a montré à toi, mais il ne me l'a pas montré à moi. » Et Dieu est capable ainsi de révéler à tous ceux qui sont concernés, quel est le plan de Dieu et quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, il ne faut pas confondre les aspirations les plus ferventes avec la volonté de Dieu. Ceci m'amène à ce deuxième point, qui est révélé par le verset 14. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous savez, il est trop facile de se nourrir aujourd'hui, je dirais, des succès que nous prévoyons pour le futur. C'est ça que j'appelle de l'illusion. Sérieusement, pour nos lendemains que nous ne voyons pas, il faut que nous soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. La confiance dans le Seigneur n'est pas un chèque en blanc. C'est pas parce que nous plaçons notre confiance en Dieu que nous allons pouvoir lui imposer ce que nous voulons. Et vous savez, dans certains milieux évangéliques, dont je dois dire, mes frères et sœurs, nous faisons partie, et particulièrement ces milieux charismatiques où l'on met l'accent sur les dons. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire, je crois aux dons et je prie le Seigneur qu'il nous donne la possibilité d'en manifester abondamment au milieu de nous, parce que c'est ce que Dieu a donné à l'Église pour l'exhortation, pour l'édification, et il nous faut aspirer après les dons spirituels. Mais quelques-uns, parfois, eh bien, sont tellement gagnés par cela et s'imaginent que, comme ils ont un don, ils peuvent tout imposer à Dieu. Même, j'ai entendu, je crois avoir partagé cela avec vous une certaine fois, un serviteur de Dieu dire depuis l'estrade, et pourtant je reconnais que cet homme que j'ai bien connu avait reçu de la part de Dieu un don exceptionnel, un don de guérison, car effectivement plusieurs avaient été guéris par le moyen du ministère de ce frère-là. Sauf que ce qui m'a déplu fortement, c'est quand il a dit « Voyez-vous ses mains ? Ses mains ont guéri des milliers de malades. » Et intérieurement, j'ai été bouleversé, parce que je me suis dit « Cet homme a fini de vivre dans l'humilité et de dépendre de Dieu. » Car ce n'est jamais nos mains qui guérissent qui que ce soit, mais c'est Dieu qui a le pouvoir de le faire. Et effectivement, certaines personnes ont tendance à vouloir exercer les dons comme cela pour imposer à Dieu certaines choses sans même avoir la révélation de ce qu'est la pensée de Dieu pour une circonstance particulière. Il n'y a pas d'automatisme chez Dieu. Et il faut que chaque fois que nous avançons, que nous faisons un pas dans une direction, nous soyons conscients que nous dépendons de Dieu et qu'il faut être à l'écoute pour entendre sa voix. Il semble donc que ces hommes-là, dont fait mention Jacques, devaient être des hommes d'affaires de son époque, puisqu'ils disent « nous trafiquerons, nous gagnerons ». Avez-vous vu un peu cette forme d'assurance ? C'est une assurance qui vient de la chair. Je dirais tout simplement que c'est de la prétention, c'est de la présomption. Et la présomption ne rentre pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des fois une sorte de timidité spirituelle qui est fort appréciable de notre Dieu. Vous allez dire, comment ça ? Moi, j'ai lu le contraire dans la Bible, et j'ai lu que quelqu'un a repris, il s'agit de l'apôtre Paul, Timothée, en lui disant que Dieu ne lui avait pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas que certaines personnes dans la Bible se sont trouvées dans des situations où ils ont réalisé des exploits. Je pense par exemple à Jonathan. le fils de Saül dans l'Ancien Testament, qui à un moment donné s'est trouvé en face d'un poste des Philistins. Et il a dû gravir, accompagné juste d'un jeune homme qui portait les armes derrière lui, une colline pour atteindre le poste des Philistins. Il y avait un certain nombre de personnes là-bas. Lui, il était tout seul avec son compagnon qui portait les armes. Mais il s'est avancé et il a dit, peut-être Dieu les livrera entre nos mains. Peut-être. Il y a des chrétiens qui ont oublié cela. Et ils affirment certaines choses avec une conviction et une force qui les trompe. Parce que c'est la force de leur imagination qui s'impose à leur cœur, mais ce n'est pas la révélation produite par la parole de Dieu. Quand voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai découvert, et je sais que vous tous, vous avez découvert aussi cela, la Bible répond à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Il y a certains problèmes des fois où nous disons, mais qui va m'apporter le conseil? Et même s'il est vrai que parfois nous pouvons faire appel à quelqu'un qui a peut-être plus de maturité, à quelqu'un qui a peut-être aussi quelques années d'expérience, que l'on peut faire confiance à un pasteur ou à un ancien. C'est vrai que cela peut être bon parfois, mais écoutez bien, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dieu est capable de montrer et de mettre des convictions profondes dans le cœur. C'est la raison pour laquelle la dépendance de Dieu doit se traduire par une vie de prière quotidienne. Et vous savez, la prière, c'est pas seulement ce moment que nous mettons à part où nous pouvons nous mettre à genoux dans une pièce de notre maison ou dans le bureau ou que sais-je. Voyez, c'est un état dans lequel nous nous trouvons constamment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, je suis au volant de la voiture. Et je suis donc bien obligé de faire attention à la route, faire attention à beaucoup de choses. Eh bien, voyez-vous, aussi stupide que je suis aussi capable d'avoir mon cœur tourné vers Dieu. Et vous avez dû faire cette expérience-là. En travaillant, en agissant, les ménagères dans leur maison, en accomplissant leur ménage, en faisant un tas de choses, notre cœur, notre esprit est tourné vers Dieu. Finalement, le chrétien, c'est ça. C'est pas des moments qu'il met à part, au travers desquels il se consacre davantage. Je dirais, si nous sommes donnés à Dieu, nous vivons avec lui constamment. Quand je suis dans la voiture, il est là. Quand je suis à la maison, il est là. Quand je suis ici, bien sûr, il est là. Il en a fait la promesse dans sa parole. Mais où que je sois, il est là. Et d'ailleurs, un texte de l'Écriture dit, comment fuirais-je loin de Dieu? Si je descends au fond de l'abîme, Seigneur, tu es là. Si je gravis la plus haute des montagnes, Seigneur, tu es là. Si je vais à l'opposé, dans un autre point cardinal, très loin, Seigneur, tu seras encore là. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en tout lieu que nous soyons, nous pouvons toujours élever notre âme et notre esprit vers lui, pour dépendre de lui, et ainsi et recevoir de lui ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, Jacques, ici, dit, n'oubliez pas de dépendre de Dieu, parce qu'il dit, vous êtes comme une vapeur, un souffle. Un moment, vous êtes là, et à l'autre moment, vous pouvez disparaître. Dans le psaume 102, et au verset 4, cette vérité nous est présentée aussi, la vérité que nous sommes là, dans les mains de Dieu. Ésaïe 40, versets 6 et 7, Job, chapitre 13, verset 25, nous rappellent toujours les mêmes choses. la seule vie qui est soit entre nos mains et celle que nous vivons à l'instant présent. Le vrai centre de notre vie et de notre service pour le Seigneur n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est maintenant. Et la parole de Dieu nous donne quelques exemples pour que nous sachions bien que finalement nous sommes tous comme des oiseaux sur une branche et que nous pouvons disparaître d'un moment à l'autre. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être dans ce contact précieux avec le Seigneur, dans cette relation étroite avec Dieu. Regardez dans les évangiles comment Jésus nous présente cet homme, ce fermier, pour qui tout réussissait, semble-t-il. Bon, il avait fait cette année-là une récolte abondante et il se projette, vous voyez, il planifie le futur. Et qu'est-ce qu'il dit pour demain? Eh bien, il dit, j'abattrai ces greniers, je vais en construire des nouveaux, des plus grands. Et puis, il a toutes sortes de projets dans le domaine matériel. Et il parle même à son âme. Et il dit, mon âme, réjouis-toi, mange et bois, parce que tu as des biens en abondance. Comme si tout l'avenir, le futur, les années devant lui, lui appartenaient. Sauf qu'une voix s'est fait entendre. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Frères et sœurs, ce texte de la parole de Dieu n'est pas fait pour inspirer la crainte. Surtout pas pour ceux qui sont prêts et qui vivent avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui se maintiennent dans cette relation étroite avec Dieu, qui ont la communion avec Dieu. Car même si cela arrive, eh bien, c'est où nous allons? Dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, j'aime mieux quitter ce corps et être avec le Seigneur. Donc, il y a là une espérance formidable. Mais tout ce que j'ai voulu rappeler, c'est ceci, frères et sœurs. Nous devons savoir que tout est entre les mains de Dieu et notre vie ne nous appartient pas. Il nous a donné le souffle de vie. Il peut le reprendre quand il veut. Et il y a bien sûr là quelque chose que nous devons ajouter. C'est la troisième partie de mon message. Vous devriez dire, dit le verset 17, et ça c'est une chose qui me paraît très très importante, nous devrions dire si Dieu veut, mais le verset 17 dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Je sais que le Seigneur veut que je fasse ceci ou que je fasse cela. Il peut me donner une révélation spéciale pour certains points très particuliers, très précis. Mais en même temps, mes frères et sœurs, je sais que Dieu peut me dire, ce projet-là, c'est bien, mais c'est non. Vous savez qu'il y a un homme dans la Bible qui a fait cette expérience, il s'appelle David. Il avait un projet remarquable. Et ce projet-là, il rentrait même dans le plan de Dieu. Sauf que ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas à lui de faire ce qu'il était en train de projeter. Mais je voudrais vous dire, puisque vous avez certainement deviné de qui il s'agit du roi David. David qui avait la pensée de construire une maison pour Dieu, un temple pour Dieu. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas toi qui le feras, c'est ton fils après toi. C'est-à-dire, c'était le roi Salomon qui devait faire cela. Cependant, quand Dieu lui a dit non, il lui a en même temps dit quelque chose qui a dû réchauffer son cœur. Il a dit, toi, tu veux me construire une maison. Mais vous savez que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Cependant, il peut agréer ce que David avait dans sa pensée de faire, et il a prouvé cela. Cependant, il lui a dit, écoute, c'est bien ce que tu as voulu faire pour moi, mais moi je vais faire quelque chose pour toi, je vais construire une maison pour toi. Et c'est comme cela qu'il a établi la maison de David d'une manière tellement ferme et puissante que ça a été, je dirais, d'une manière éternelle, puisque le descendant de David, nous le connaissons, c'est Jésus lui-même, et un jour, il règnera, et nous avec, pour l'éternité. Il avait un plan, en pensant être agréable à Dieu, et il l'était certainement, mais Dieu lui a dit non. Est-ce que vous pensez, frères et sœurs, que quand Dieu dit non, c'est qu'il use de moyens pour nous contrarier? Ou est-ce que vous acceptez ce soir de croire que lorsqu'il dit non, c'est parce qu'il a un plan meilleur pour nous? Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Non seulement il peut dire non à certains de nos projets, mais il peut aussi dire c'est pas le moment. Il faut attendre. Il peut retarder. Et je suis persuadé que si je vous demandais des témoignages aux uns et aux autres ce soir, en vous disant, n'avez-vous pas connu de telles périodes où vous avez espéré que Dieu fasse quelque chose à un moment très précis, et puis cela a été retardé? Mais moi j'ai remarqué une chose. Chaque fois qu'une chose a été retardée, que je me suis demandé pendant longtemps pourquoi Dieu le faisait, après coup seulement, je me suis retourné et j'ai dit, heureusement que Dieu avait retardé. Heureusement. Parce que Dieu connaît mieux que nous toutes choses. C'est la raison pour laquelle ce qu'il nous demande pour le moment présent, c'est que nous soyons obéissant à ce qu'il nous révèle, à sa parole, maintenant. Finalement, avez-vous remarqué comment se termine ce texte? Celui qui sait faire ce qui est bien. Dites-moi, frères et sœurs, vous ne croyez pas que la Bible est pleine de choses qui nous sont révélées et que Dieu appelle de bonnes choses? Il y a tellement de choses qu'il ordonne, qu'il nous demande de faire. Et des fois, nous mettons de côté ce qu'il nous révèle, simplement, aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui. Ah, évidemment, nous pensons à de grandes choses. Mais aujourd'hui, dans le moment que nous avons avec lui, il peut parler à notre cœur et nous montrer juste un petit détail. Vous savez, c'est concernant notre vie personnelle, peut-être. L'état de notre cœur, maintenant. Peut-être le plan familial. Peut-être concernant juste ce petit groupe autour de nous. Concernant le foyer, concernant la maison. Il parle de différentes manières. Et il met des fois le doigt. Je pense que, comme moi, plus d'une fois en lisant la Bible, vous avez été heurté par un verset. Il semblait que Dieu était en train de faire sortir ce verset de la Bible et il venait heurter votre cœur, dire « ça, ça te concerne, c'est toi, j'attends que tu obéisses là ». Et avant d'aller plus loin, le Seigneur attend que nous vivions cela. Voyez, la vie avec le Seigneur, c'est une marche de tous les jours, dans l'obéissance, humblement, dépendante de lui. Et j'aimerais quand même dire également ceci, c'est encourageant de voir comment le Seigneur est capable de nous montrer qu'au travers de toutes les choses que nous pouvons traverser, il y a un acte d'amour de sa part. Tenez, Dieu est amour, nous le disons très facilement. La Bible dit aussi l'amour de Dieu est éternel. Et je dois confesser, des fois je suis conscient de cet amour et je déborde de louanges, je déborde dans l'adoration et je suis là devant le Seigneur pour lui dire toute ma gratitude. Et des fois, parce que quelque chose de négatif arrive, il n'y a plus cela et on a presque l'impression, mais où est l'amour de Dieu? Et vous savez, le diable s'est susurré à nos oreilles, mais où il est l'amour de Dieu? Où est la preuve de son amour, de sa fidélité à ton égard? Où est-elle? Eh bien, c'est là que l'Esprit de Dieu nous reprend. Et je dois vous dire, plus d'une fois, il m'a repris. Parce que jamais Dieu n'a cessé de m'aimer, même quand il m'a corrigé. Parce que quand il a corrigé, il l'a fait par amour. Et si nous ne tenons pas compte de cela, alors regardez ce qui est dit au verset 16. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Savez pourquoi c'est chose mauvaise de ne pas être dépendant de Dieu? Parce que ce que nous nous imaginons ne va pas avoir le résultat que nous espérons si ce n'est pas Dieu qui a mis cela dans notre cœur. Et c'est mauvais toujours quand nous constatons que nous nous sommes trompés. Et le seul moyen de ne pas nous tromper, eh bien, c'est de garder les yeux fixés sur lui. Et s'il nous est arrivé de nous tromper, le réparateur des brèches, c'est qui? C'est le Seigneur. Et il continuera lui-même à relever, à édifier, à consoler. Que la parole de Dieu reste gravée dans notre cœur et que nous n'oublions jamais cela.